Bonjour à tous, une nouvelle semaine qui s'ouvre avec des réformes et l'invité de Midi 55, le jeune économiste Thomas Porcher, qui signe un savant traité d'économie hérétique, en finir avec le discours dominant, un essai qui paraît chez Fayard. Il sera donc avec nous après le journal de Benoît Bouscarel. Mais d'abord, metteur en scène, directrice du Théâtre de la Commune et présidente du SYNDEAC, le Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles, trois bonnes raisons de la recevoir aujourd'hui pour parler de Pirandello à travers Vêtir ceux qui sont nus, qui se joue actuellement à Aubervilliers. Et puis pour parler aussi politique, culturelle et place du spectacle vivant, Marie-Josée Malice est notre première invitée. Écoutez tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Elle vient d'Orient où elle était gouvernante d'une petite fille qui va mourir en tombant accidentellement de la terrasse. Elle est chassée, la grande traversée. Elle arrive en Italie. Sa triste histoire est publiée dans le journal. Elle s'appelle Ercilia Drei, recueillie d'abord par un écrivain en mal d'inspiration, puis confrontée au regard et au remords d'une galerie de personnages, consuls, amants, journalistes, ils défilent. Après On ne sait comment en 2011 et La volupté de l'honneur en 2012, troisième Pirandello, mise en scène par vos soins, Marie-Josée Malice. Bonjour.
Bonjour.
La pièce aurait pu s'appeler La pitié dangereuse, mais, parole d'évangile, Pirandello lui a préféré vêtir ceux qui sont nus. C'est une métaphore qui habille ou recouvre quelle réalité ?
La réalité, en effet, de ceux qui sont sans moyens, qui n'ont pas de place dans le monde, et qui, comme le dit le personnage Ercilia Drei, comme tout le monde, voudrait se vêtir d'un petit habit de décence et de dignité, et qui cherchent les moyens de trouver cet habit, et qui sont pourtant la proie des jugements, du mépris de tous, etc. Donc c'est une métaphore, en effet, une figure qui parle de l'exclusion, de la précarité, aujourd'hui sans doute aussi de la place des migrants, enfin de ce qu'on appelle les migrants. Voilà.
Et pourtant, ils prétendent tous la protéger, l'écrivain, le fiancé, le journaliste, le consul, qu'ont-ils en commun ?
Oui, vous avez raison, ils ont en commun de vouloir d'être sans doute profondément attirés par ce malheur et y trouver peut-être une possibilité de salut. Prendre en charge la déshéritée, la malheureuse, c'est sans doute en effet se donner à soi-même la conscience, l'idée de soi-même dont on a besoin. Et vous avez raison, et en même temps, et c'est la douleur de cette pièce et aussi sa grandeur, Pirandello nous montre qu'ils ratent leur objet, en fait, qu'au fond, ça n'est pas le réel qui les intéresse. C'est leur propre dilemme, leur propre besoin pour eux-mêmes, mais qu'Ercilia, au fond, n'est pas le réel qui les intéresse profondément. Ce qu'elle a à leur dire, ils ne l'entendent pas.
On est tous un peu comme ça, nous, les journalistes, les écrivains. On a tendance à dévorer les êtres, à abuser un peu du réel, à être finalement assez vaniteux par rapport aux personnes qu'on pense pouvoir aussi prendre en charge, considérer. On transforme leur vie en histoire et au fond, on n'en fait pas grand-chose.
Oui, je crois qu'on est tous comme ça, mais pas seulement, je pense, les professionnels du récit. Je pense qu'on est comme ça dans la vie. La question de l'instrumentalisation des autres est évidemment la question qui est à la clé de toutes les relations humaines, a fortiori des rapports amoureux ou des rapports comme ça, d'amitié ou d'intérêt qu'on peut prononcer les uns pour les autres, et on s'instrumentalise. À vrai dire, ce qui, moi, m'avait beaucoup frappé et qui m'a un peu décidé à monter la pièce, c'est en discutant avec donc des amis migrants avec lesquels nous travaillons au Théâtre de la Commune, et qui m'avaient dit que lorsqu'ils font leur récit à l'OFPRA, les récits des raisons pour lesquelles ils ont dû migrer, au fond, ce qui m'avait frappé, c'est qu'ils disaient tous que les raisons réelles pour lesquelles ils ont dû quitter leur pays, les raisons réelles pour lesquelles ils sont là, n'intéressent pas les officiers du droit d'asile, en fait, qu'ils ne peuvent pas dire la vérité. Et cette question de savoir comment nous allons parler de ce qui nous arrive, et est-ce qu'il y a un discours, une manière d'en rendre compte, qui rendra justice à ce qui nous est arrivé, à ce que nous sommes, c'est la question qu'adresse Ercilia aux écrivains, à l'écrivain, au théâtre, aux gens qui la recueillent et qui s'intéressent à elle. Elle demande au fond, serez-vous capable d'entendre ce que j'ai à dire ? Et serez-vous capable d'en faire une histoire qui me rende justice, en fait ?
On l'écoute ?
Il faut que tu penses à ces choses, Lisa. Alors du courage.
Mais au moins, toi, tu vas faire en sorte que cette femme-là, ce soit moi. Moi.
Cette femme-là, et quelle femme ?
L'autre. Celle que tu as imaginée. Puisque j'ai été, ne serait-ce qu'une seule fois, quelque chose. Comme tu l'as dit. J'ai été une fois quelque chose. Je veux être moi-même.
Elle veut être elle-même, parce qu'il y a une distorsion entre ce qu'elle souhaiterait voir écrit, trouvé sous la plume de l'écrivain qui l'accueille, et le récit que lui pense en faire. D'ailleurs, il dit qu'il a tout imaginé en lisant cet article dans le journal qui lui était consacré à cette femme réfugiée ici chez lui. Il prétend pouvoir réimaginer cette vie-là. Et elle aimerait bien que sous sa plume, effectivement, trouver quelque chose qu'elle-même ne saisit pas.
Oui, c'est exactement ça. D'un côté, il y a l'écrivain, les artistes, les gens qui aujourd'hui parlent, essaient de rendre compte de la réalité et qui en fait sont en défaut de réalité, n'arrivent plus à trouver moyen de rendre compte de ce qui se passe réellement. Je pense que les gens dont c'est la spécialité, les intellectuels, les artistes, font tous le constat d'être vraiment en crise sur la question de la connaissance d'autrui. Sur la manière, les procédés, la manière dont on va rendre compte de ce qui se passe réellement pour les gens. Il y a d'un côté donc le problème de l'écrivain. Et il y a cette question, par ailleurs magnifique, qu'adresse Ercilia, cette hypothèse, qui est que, au fond, pour être soi-même, il faut en effet un récit. Il faut une manière de parler de soi qui rende justice à notre beauté. Et elle propose en fait de séparer l'objectivité des faits du fort intérieur, de la subjectivité. Et ça, c'est un savoir qu'apportent les malheureux, qui disent souvent qu'ils sont obligés de faire des choses pour la survie, que leur conscience et leur fort intérieur récusent en fait. Et que donc, si on ne les juge que sur l'objectivité des faits, on ne rendra pas justice à ce qui demeure d'eux et qui continue à être beau, à être humain, à être digne. Et cette question magnifique, c'est la question que Ercilia adresse à la politique, mais aussi à l'art et à la civilisation. Trouverons-nous moyen de nous parler, de nous considérer les uns les autres, de sorte que nous nous rendions justice ? Voilà, je trouve ça splendide en fait.
Elle le dit d'ailleurs, je suis comme vous me voyez, je n'ai rien avec moi, juste une petite valise placée sous séquestre et maintenant je suis nue. Elle est nue, là, devant nous. Sa vérité au fond n'intéresse personne, pas plus le troisième homme qui entre sur scène, son amoureux, la Spiga, et qui est venu pour se faire pardonner, pour tout réparer. Une fois encore, il se réapproprie son histoire et la tourne vers lui-même au lieu de la tourner vers l'autre. Vous avez trouvé quel chemin emprunter, Marie-Josée Malis, comme metteur en scène pour tenter d'approcher la vérité de l'autre, cette connaissance de l'autre que vous évoquiez.
Je suis au milieu du guet, moi, en tant que metteur en scène. Je dirige le théâtre de la Commune. Et par exemple, cette pièce est vraiment caractéristique de cette espèce de moment intervallaire entre deux qui je crois, caractérise l'art théâtral. D'un côté, au théâtre de la Commune, j'ai créé une école avec des migrants. Et ça, c'était le point de réel de la rencontre, c'est-à-dire vraiment créer une école intellectuelle, une vraie école, dans laquelle des grandes questions de société sont débattues, traitées avec les laissés pour compte, les migrants, mais aussi des intellectuels. Alain Badiou est président de cette école. Donc on a cette instance-là. Et puis de l'autre, il y a l'art théâtral, où... En l'occurrence, l'exclu, la déshéritée continue à être, sur mon plateau, représentée par une comédienne splendide, qui est la porte-parole professionnelle de ces laissés-pour-compte, de ces exclus. Et je pense que nous sommes encore à un moment comme ça, où il faudra faire la jonction entre le réel des gens eux-mêmes, qui parleront en leur nom, et l'art théâtral, qui est un lieu de représentation, qui demeure encore un lieu où la parole est, donnée, portée par les acteurs professionnels, etc. Et je dirais que cette dialectique, cette rencontre, j'essaye cette rencontre entre les professionnels de l'art et les vrais gens, c'est tout le cœur de mon projet au Théâtre de la Commune. Et c'est en faisant entrer discrètement, mais obstinément, le réel sur les plateaux, le réel dans l'administration de mon théâtre, en forçant ce théâtre à héberger une école pour migrants, ce qui n'est pas sa vocation, que j'espère réussir à lester le théâtre comme art, mais aussi le théâtre comme lieu public, à le lester d'une nouvelle alliance avec les gens eux-mêmes qui ont des choses à dire et qui ne peuvent plus se contenter du fait que l'on parle pour eux, en leur nom et pour leur bien, comme on dit, qui ont leur propre réflexion à mener et à faire valoir, en fait. Voilà.
Mais quand vous pensez la mise en scène de Vétir, ceux qui sont nus, par exemple, pour qui la pensez-vous? À qui vous adressez-vous? Parce que c'est vrai que c'est aussi une pièce longue, une pièce plein phare, à la fois sur les acteurs et aussi sur les spectateurs, avec des lumières à la fois chaudes ou vives, des portes ouvertes et le froid qui peut s'y engouffrer. C'est un spectacle lent, avec des silences, qui prend son temps, sans effet, sans décor, avec une vaste scène très peu habitée. Peu habillée aussi, presque nue, comme l'histoire qu'elle raconte, une mécanique théâtrale qui est apparente. Est-ce que vous pensez pouvoir aussi accrocher avec cette mise en scène un public de tout âge, un public aussi de cette commune que vous incarnez à travers ce théâtre de la commune, Aubervilliers?
Oui, c'est même la beauté de notre théâtre. C'est-à-dire que, par exemple, Vétir que ceux qui sont nus, nous l'avons répété en continu devant les participants de l'école des actes, donc devant des migrants, devant des jeunes déscolarisés qui sont notre public, au fond, qui sont désormais nos partenaires. Alors, étrangement, en effet, je crois que je réalise, j'espère en fait, mais je le sens, c'est tangible, je réalise quasiment le slogan de Vitesse qui était élitaire pour tous. Étrangement, moi, je fais un théâtre de laboratoire. Je fais un théâtre de recherche, plutôt ce qu'on appelle théâtre d'art, et je le fais à destination des publics dont on dit qu'ils sont les plus éloignés. Au fond, je pense que les publics les plus, qui restent encore les plus difficiles pour moi, les ceux que je dois convaincre de la pertinence de mon acte, ce n'est pas le public populaire. C'est plutôt le public habitué du théâtre qui est un petit peu propriétaire des codes théâtraux, de son académisme ou de sa modernité, répandue, enfin la plus comme ça admise. C'est plutôt le public le public de la classe moyenne qui est réticent à mon théâtre. Mais le public populaire, comme le public des jeunes amateurs de théâtre, des chercheurs, des étudiants, est plutôt le public auquel je m'adresse et qui prend pleinement ce théâtre pour lui. Je crois que c'est le pari que je mène au Théâtre de la Commune et qui se vérifie comme valable, qui est que, en effet, il faut proposer aux gens l'art théâtral le plus passionné. Celui qui cherche sa vérité ou sa... Voilà.
Marie-Josée Malice, en venant hier voir la pièce Vêtir ceux qui sont nus, on nous propose, on se demande si on va voir cette pièce-là de vous ou si on allait voir la pièce d'actualité. Alors qu'est-ce qui se passait à côté, dans une autre salle du Théâtre de la Commune, au même moment?
Une déclinaison, alors là, tout à fait tonique, etc., du même programme. Les pièces d'actualité, donc c'est une invitation que nous avons lancée à des artistes plutôt très notoires, comme Maggie Marin, Rodrigo Garcia, ici Monica Günzler-Dorfer, qui avait déjà présenté un spectacle chez nous. Et donc cette invitation, c'est: est-ce que le fait de travailler votre art théâtral dans un lieu comme Aubervilliers vous fait faire du théâtre autrement? Voilà. Est-ce que du coup, le fait d'adresser votre art ici à des gens qui sont là, vous fait inventer des formes théâtrales nouvelles? Et il se trouve que cette invitation a passionné ces artistes. Donc Monica, elle travaille sur, et c'est génial d'ailleurs, elle a lancé une invitation à la jeunesse d'Aubervilliers du département, du 93, sur la question de la culture du coupé-décalé, qui est, vous savez, une danse comme ça populaire, pratiquée en Afrique subsaharienne, mais qui est une danse qui est à la fois, bon, extraordinairement populaire en effet, mais qui est aussi une danse politique, puisque c'est une danse qui est issue de la récupération de toutes les raisons qui font, pour lesquelles les gens galèrent, de tous les faits de société qui oppriment les gens en Afrique, et dont ils se saisissent pour les transformer en chansons et en motif de dérision populaire et de réappropriation subversive et drôlatique par l'art de la danse et de la chanson. Alors, il se trouve que cette pièce d'actualité a déclenché une mini-émeute, puisqu'on a des stars du coupé décalé qui viennent d'Abidjan, essentiellement, et qui ont drainé à Aubervilliers toute une jeunesse complètement sidérée à l'idée de pouvoir danser avec ordinateur, à lingot, enfin les grandes stars du coupé décalé. Donc de l'autre côté, c'est la fiesta. Chez nous, c'est un peu, si vous voulez, le grand machin, la grande pièce de répertoire, menée de manière un peu expérimentale. Et là-bas, c'est la pièce tonique, totalement en prise avec la jeunesse, en fait.
France Culture avec Marie-Josée Malice jusqu'à midi et demi et sa pièce Vêtir, ceux qui sont nus, qui se joue actuellement, qu'elle a mise en scène au Théâtre de la Commune à Aubervilliers.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Dans sa pièce la plus célèbre, six personnages en quête d'auteur, Pirandello fait dire au directeur « Que voulez-vous que j'y fasse de France, il ne nous arrive plus une seule bonne pièce ? Et si nous en sommes à monter des pièces de Pirandello, rudement calé celui qui n'y comprend quelque chose, et qui sont fabriquées tout exprès pour que ni les acteurs, ni les critiques, ni le public n'en soient jamais contents ?» Alors est-ce pour ça, Marie-Josée Malice, que vous êtes allée chercher du Pirandello ? Ou pour autre chose, ici aussi, l'un de ces personnages évoque l'exclu de Pirandello, un auteur que je ne peux pas souffrir, rétorque l'écrivain, que tu te sois trompé en m'attribuant un mauvais roman comme celui-ci, ça le peine. Voilà. Et ça, l'exclu, c'est le premier roman de Pirandello publié en 1901, premier portrait aussi d'une étrangère mise au banc. Quel homme de théâtre est pour vous Pirandello aujourd'hui, Marie-Josée Malice?
Pirandello, c'était un révolutionnaire en fait. Il a souffert en France d'une mauvaise interprétation. On ne s'est intéressé qu'aux pièces systématiques sur le théâtre, six personnages, etc. Les pièces qui explicitement méditent sur le théâtre. Et puis on lui a fait le mauvais procès. C'est un procès, je pense, qui a été mené par les Brechtiens. On lui a fait le mauvais procès d'avoir été fasciste quelques mois, donc d'avoir soutenu pendant quelques mois Mussolini, puis il s'est rétracté. Et du coup, il y a toute une dimension de son théâtre qui est méconnue. Mais en fait, Pirandello était révolutionnaire. Et les citations que vous venez de faire montrent qu'en fait, Pirandello, lorsqu'il sortait une pièce et qu'il participait à son montage, c'est un auteur très impliqué dans la vie théâtrale, dans le faire théâtral, lorsqu'il sortait une pièce, en fait, à chaque fois, il y avait une émeute. La bourgeoisie italienne considérait ces pièces comme des provocations. Des provocations qui avaient notamment valu à Pirandello le fait de devoir quitter le théâtre par la porte arrière le jour de la première de six personnages en quête d'auteur, parce que les gens l'attendaient pour lui casser la gueule. Donc ces provocations, elles venaient du fait que Pirandello prend le théâtre bourgeois avec ses situations habituelles, l'amant, etc., les vaudevilles, prend le théâtre bourgeois et le soumet à un régime strictement intellectuel et philosophique. Et fait du théâtre bourgeois des grandes questions de la vie, l'amour, l'adultère, etc., l'occasion de méditer sur le sujet humain moderne et notamment sa nouvelle liberté, le fait que le sujet humain est confronté comme ça à l'angoisse de découvrir qu'au fond il est incompréhensible, l'homme.
Mais qui suis-je, dit d'ailleurs à l'héroïne de vêtir ceux qui sont nus. C'est aussi une réflexion sur l'identité qu'il mène et qu'il ouvre, une fois encore, Pirandello, à travers cette femme. Une réflexion sur les apparences et sur la profondeur de l'être, si compliquée à atteindre et à toucher. Troisième fois que vous mettez en scène Pirandello par ces textes d'ailleurs, hein, souvent les plus connus, plutôt des textes un peu moins connus, un peu plus à la marge de son œuvre. Quelle place faisait-il aux acteurs? Je vous propose d'écouter les mots d'Emmanuel Béard avec Stanislas Nordet, qui mettait lui en scène en 2012 « Se trouver » de Pirandello, autre portrait de femme entre désir de vie et passion de créer.
Pirandello dit que l'acteur est un médiateur entre le divin et le terrestre. Salo dit qu'on n'a pas besoin de vivre pour recréer des émotions, on n'a pas besoin de les avoir vécues, pas celles-là forcément. Moi, j'aime bien, je m'accroche souvent à cette réplique parce que je la trouve assez juste. Oui, les mots frappent. Ce que dit Pirandello aussi, et ce qui est très beau, c'est qu'il dit que c'est un jeu dangereux. Il le dit. Mais il dit aussi qu'il y a une confusion et que nous-mêmes, nous ne savons pas toujours où elle se trouve. Alors les mots, on y travaille tellement.
Et alors le mot création, là aussi, il faut voir par rapport à l'acteur. On a souvent dit que l'acteur n'était pas un créateur, mais un exécutant, que l'auteur est un créateur, que le metteur en scène est un créateur, etc. Et ça, c'est très très beau aussi dans la pensée de Pirandello et les textes que Martha Abba elle-même a écrits sur l'art de l'acteur en 1932. C'est intéressant d'oser dire que l'acteur est un créateur, quoi. C'est tout d'un coup la question de la matière, quoi, de toute la matière qu'on a vivante, qu'on a en soi. L'acteur étant son propre instrument, donc qui se sculpte lui-même, qui fait apparaître comme ça, qui à partir de cette glaise-là construit quelque chose. Et du coup, je trouve aussi que ce qui est beau, c'est que ça pose l'acteur en tant que travailleur, forçat aussi. C'est-à-dire pas simplement être inspiré, fantasque, je sais pas quoi, c'est tout d'un coup affirmer comme ça la physicalité à la fois et le droit au génie aussi.
Le droit au génie, on va le revendiquer.
Oui, c'est pas mal de le revendiquer. Moi, ce que je crois, si vous voulez, c'est que Pirandello, il a une hypothèse qui est très très belle, en fait. Il est au moment où on est menacé par le nihilisme. Et c'est un moment qui est proche du nôtre, hein. C'est un moment où, en effet, l'humanité ne supporte plus trop d'être livrée à son propre vide. Et donc, c'est un moment où on a envie de retrouver Dieu, par exemple, qui nous garantit qu'on est quelque chose, ou la morale, enfin. Et si on n'a pas ça, on est livré au vide et donc on peut être tenté par le nihilisme. On peut se dire après tout, si personne n'est là pour garantir le bien, etc., autant que je me laisse aller et que je suive mes pulsions. Alors Pirandello dit, bon, plutôt que de retourner vers Dieu ou vers la morale, qui est quand même une sorte de chose un peu embarrassante, qui a beaucoup pesé sur l'humanité quand même, on va faire un pari. On va dire en effet que l'humanité est livrée à son propre vide, à son propre inexplicable, et que pour s'en sortir, elle n'a qu'à se raconter des histoires. Que par exemple, pour vivre ma vie, je n'ai qu'à me donner des rôles à accomplir, donc je n'ai qu'à me considérer comme un acteur qui souhaiterait être quelque chose, jouer le plus beau rôle de ma vie, et essayer d'accomplir ce rôle. Et du coup, c'est une très belle idée, je trouve, qu'on peut donner à la jeunesse pour devenir quelque chose, quelqu'un. Alors faisons comme si nous avions à fictionnaliser, rêver notre propre vie et essayons de mettre en œuvre ce rêve. C'est pas mal, hein ? Et du coup, l'acteur chez Pirandello est une sorte de, comment dire, d'humain avant-garde qui montre comment on fait pour accomplir une telle dimension humaine, se réaliser soi-même.
Et c'est peut-être ça le sens du théâtre, c'est peut-être ça le sens de l'art ou de la fiction, comme vous l'évoquiez, Marie-Josée Malice. C'est vrai que c'est aussi une pièce sur le malheur social, une pièce grave et pessimiste, presque sans rédemption, mais qui nous interroge sur ce sens de l'hospitalité que nos sociétés ont peut-être en partie perdu, notre mauvaise compréhension ou incapacité à vraiment regarder l'autre et à le comprendre. Et il nous faut réapprendre à recevoir et à vêtir. Je vous propose, à propos de création, d'écouter les mots de Jacques Ralite, décédé l'an passé, maire d'Aubervilliers, fondateur du Théâtre de la Commune en 1960, que vous dirigez aujourd'hui, sur ce souffle de la création par les temps qui courent. C'était dans un discours prononcé en 2012 au Théâtre de Montfort, lors des rendez-vous de la revue Cassandre.
Face au chiffrage de la vie, nous sommes le déchiffrage des rêves. J'aime à penser que nous sommes des lucioles. Nous voulons courageusement donner un avenir à nos origines. Alors, pour continuer, même et surtout avec impertinence, écoutons ce gazier électricien qui fréquente les œuvres de la CCAS. J'ai compris que la culture est un droit et un bonheur. La culture, pour moi, c'est ce qui t'élève au-dessus de toi, au-dessus du lieu où tu es né, de l'époque où tu vis. Tu te sens partie prenante du monde entier et de toute l'humanité. Encore faut-il qu'il y ait des créateurs qui soient libres, des créateurs souffleurs de conscience, avec les œuvres de qui on respire, on jubile leur intime, qu'ils offrent à un intime à l'instant devenu.
Lors de votre prise de fonction à la tête du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, Marie-Josée Malice, en septembre dernier, vous avez interpellé le gouvernement pour lui demander quoi d'ailleurs exactement?
Pour lui demander une refondation de la politique culturelle, en fait.
À ce propos, Jacques Ralit nous dit « La culture est un droit et un bonheur ». Comment faciliter aujourd'hui l'utilisation de ce droit, la mise en avant de ce droit?
Je crois qu'on est à un moment qui est symétrique et comparable à ce qui s'est passé au moment de l'invention de la décentralisation culturelle. Je crois qu'on est à un moment où il y a un besoin qui est de nouveau très très fort de lieux culturels et d'actes culturels. Je crois que si on regarde bien ce qui se passe, il y a de nouveau des zones rurales qui se désertifient. Il y a des quartiers, comme on dit, qui sont en difficulté. La jeunesse qui ne trouve pas sa place dans la société. Il y a une classe moyenne qui est en train de se trumpiser, qui souffre de son déclassement. Donc c'est un moment comme ça où les besoins de nouveau de culture au sens de lieux où on puisse discuter de ce qui nous arrive. On puisse, comme dit Jacques Ralit, commencer à entrevoir les moyens par lesquels on s'élève au-dessus de son lieu et de sa condition, doivent être de nouveau redonnés aux gens. Et c'est ce que j'ai demandé en fait au gouvernement de prendre en considération le fait que, contrairement à ce qu'on nous dit, la décentralisation culturelle n'est pas achevée, mais au contraire doit être recommencée, une sorte d'adjournamento de la décentralisation, en prenant au sérieux le fait que partout la fraternité et l'égalité sont mises à mal, et a fortiori fait nouveau dans la classe moyenne, qui sent que l'éducation nationale ne fait plus le boulot qu'elle faisait avant, de fournir l'ascenseur social à ses enfants. Et ça, on sait que c'est un péril de trumpisation des esprits. Et contre ça, il n'y a qu'un pari courageux, honnête, hein, c'est ce qu'on doit, de reprendre au sérieux le fait que nous devons, en effet, avoir une politique culturelle, et partout la même. Parce que qui plus est, il y a inégalité territoriale.
Et les discussions sont engagées ?
Elles sont engagées, mais de manière, je dirais, à la fois, bénévolente, mais faible. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, de la bonne volonté, mais il y a évidemment une esquive l'ampleur du problème, en fait. Donc, je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on gagne la bataille, qu'on arrive à faire comprendre qu'il s'agit d'un problème très très sérieux et qu'on ne parle pas de mesurettes, mais d'un adjournamento, d'une refondation, de ce qu'on a appelé un acte 2
de la décentralisation.
Ouais.
Merci beaucoup Marie-Josée Malice. Vêtir ceux qui sont nus, c'est à voir actuellement au Théâtre de la Commune à Aubervilliers jusqu'au 28 mars. Merci mille fois.
Merci.